Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors nous recevons maintenant Mathieu Delahousse, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez La Chambre des coupables, c'est un récit d'audience de jeunes qui ont tenté de partir en Syrie ou qui en sont revenus et qui se sont retrouvés devant la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Alors c'est un recueil de tranches de vie, mais c'est aussi en soi une formidable enquête sur cette jeunesse djihadiste qui navigue en fait entre l'horreur la plus extrême et aussi une forme de naïveté. Et c'est peut-être ça qui frappe d'abord dans votre récit, c'est le décalage qu'il y a souvent entre des projets épouvantable. Et puis les propos parfois badins, même puérils de ces prévenus.
Ce qui est très troublant, c'est le décalage entre le papier et ces personnages de chair et d'eau qu'on voit devant nous dans les box. Sur le papier, il y a des écoutes téléphoniques avec une jeune fille qui raconte, par exemple, à l'issue de plusieurs semaines de dialogue avec l'une de ses amies qui a 16 ans. Elle lui dit « Qu'est-ce que tu veux faire au casino de Paris quand on va se retrouver vendredi prochain ? Est-ce que tu veux être kamikaze, te faire sauter avec le gilet, ou tu préfères te faire sauter par le RAID ou le GIGN qui va intervenir ?» Et l'autre répond comme si c'était une sortie de lycée. C'est un attentat qui a été déjoué au casino de Paris avec plusieurs milliers de personnes. Les jeunes, sur cette histoire-là, échangeaient en disant qu'ils voulaient faire mieux que le Bataclan. C'était quelques semaines après.
Et effectivement, quand on voit les jeunes gens... C'est le concert de Tony Carrera.
Absolument.
Alors, c'est grâce à votre livre que je l'ai découvert, hein, je le confesse. Mais ce qui est terrible, c'est qu'elle explique « J'ai vu qu'il y avait 2000 places, que c'était à guichet fermé, donc j'ai pensé qu'il y aurait plus de monde à tuer. »
C'est une stratégie militaire quand on regarde les papiers. C'est une stratégie de destruction massive. Et c'est ça le terrorisme. Ces jeunes femmes qui sont connectées, mais comme n'importe quel adolescent, elles vont trouver les plans du casino de Paris sur Google. Elles vont trouver les dates du concert sur Internet. Elles vont trouver les plans de la ville également de la même façon. Et elles font une stratégie militaire qui ira pas jusqu'au bout, qui est télécommandée tout de même par un homme qui s'appelle Rachid Kassim, qui est en Syrie et qui est l'un des plus grands djihadistes. Et effectivement, sur le papier, toutes ces histoires-là sont terrifiantes, sont des plans militaires, sont des plans d'attentats qui auraient pu se dérouler. Mais quand on arrive dans le box, on tombe sur une jeune fille qui effectivement est à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, qui est amaigrie, qui ne sait même plus ce qu'elle dit, qui ne comprend pas. Et on comprend très vite, nous, en observateurs, qu'elle est totalement influençable, qu'elle a été influencée par ces jeunes mineurs de 16 ans pour partir au combat, et que là, elle est en train de se faire influencer de la même façon, avec la même candeur, le même engagement et la même naïveté vers une déradicalisation caricaturale qu'on a envie de croire, mais sur laquelle on est obligé de douter.
Et dans cette affaire-là, elle attendait aussi des armes qui devaient venir de Belgique, de Molenbeek. Et ce que vous pointez du doigt aussi, c'est que tous ces gens qui défilent comme ça pendant des semaines, ils sont tous plus ou moins interconnectés.
Ils sont interconnectés par des outils dont on parle à chaque fois dans tous les dossiers terroristes, qui sont Facebook, qui sont les réseaux sociaux, et qui sont cette connexion totalement virtuelle au départ pour des faits réels ensuite. Il y a eu des attentats qui ont été jugés, je pense notamment à l'attentat qui devait viser dans les Pyrénées-Orientales le sémaphore de Cap-Béart. Celui-ci a été jugé aux assises avec un ancien militaire qui avait quitté l'armée, il avait été réformé de la marine nationale pour des raisons de comportement, et qui finalement s'est connecté par les réseaux sociaux avec un garçon qui était à Lille, un autre qui était à un autre endroit, et finalement tous se sont retrouvés. Et finalement, moi, avec les jeunes gens, il y a ce sentiment terrifiant, parce qu'on a l'impression quand même que c'est des crimes contre l'humanité qu'on est en train de juger. On a l'impression que ce sont des crimes pour l'histoire qu'on est en train de juger. Et finalement, il y a une forme d'effectivement de légèreté totale, et c'est le mythique du terrorisme, c'est le site de rencontre du terrorisme.
D'inconscience, quelque part.
D'inconscience, avec des petits messages qu'on s'échange, en mettant en avant le fait que... Ben, quand tu monteras de Bron à côté de Lyon, ce qui est le cas de la jeune femme, quand tu partiras de Toulouse, ce qui est le cas d'un autre, eh ben, on se retrouvera effectivement avec les filles de Molenbeek. Ce qui choque beaucoup quand on les voit, c'est qu'ils ont tous le profil soit de petites mains inutiles, soit le profil des grands terroristes qu'on a vu passer à l'action et qui se sont tués soit par les kamikazes, soit par les forces de l'ordre, que ce soit au Bataclan, à Saint-Étienne du Rouvray, à Trèbes, etc. Toute cette liste qu'on connaît.
Et vous dites qu'ils ont aussi un autre point commun, c'est qu'ils détestent, et je vous cite, la France à un point inimaginable.
Dans toutes ces structures. Et souvent, cette détestation de la France, chez les jeunes djihadistes, elle s'exprime sur tous les étages. C'est-à-dire qu'elle s'exprime évidemment sur les militaires. Il y a une jeune fille qui est dans le box un jour et qui se tourne vers le gendarme qui garde le box. Et elle dit, voyez, je suis déradicalisé, mais il y a 2 mois, l'homme qui est à côté de moi, j'aurais voulu l'étrangler. Pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente, pour l'uniforme qu'il a. Mais il déteste de la même façon l'école. Il rejette évidemment la presse, mais c'est pas les seuls. Et il rejette le système social avec un cynisme absolu qui fait qu'on garde les allocations pour partir au djihad, mais qu'on prend quand même ces allocations. Et évidemment, ils détestent la justice, puisque certains, c'est pas le cas forcément des petits poissons, mais des plus radicalisés, finissent par le dire les yeux dans les yeux à une assesseuse, et c'est une scène, moi, qui m'a vraiment glacé, de dire, vous savez, votre justice, faites ce que vous voulez, hein. Mais la charia, c'est mieux.
C'est pas la justice
la
de Dieu.
La loi islamique, c'est mieux.
On se fiche de la justice des hommes.
Et quand la justice veut réconcilier, c'est un fossé qui se crée.
Oui, alors vous évoquiez la déradicalisation de la jeune femme dont vous parliez il y a un instant, mais la question centrale c'est ça, c'est quelle sincérité on peut accorder à cette déradicalisation à travers les affaires que vous citez. Il y a des cas, notamment cet ancien cuisinier qui est une espèce de détenu modèle, et puis dont on se rend compte que 6 mois plus tard, il va tenter de tuer son surveillant en prison.
On voulait lui faire confiance dans son premier procès, il a essayé de partir en Syrie, il a eu un accident de voiture, il est revenu, il est parti avec sa femme et son très jeune enfant. Et effectivement, les magistrats qui l'ont vu se sont dit qu'il était peut-être dans ce qu'on appelle le bas du spectre. Et cet homme, ensuite, a été incarcéré et il a eu une radicalisation encore plus forte qui fait qu'il a commis le premier attentat en prison, qu'il est aujourd'hui renvoyé aux assises pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique et qu'effectivement, il tient un discours, celui-là, de djihad politique. C'est-à-dire que...
Complètement à l'opposé de celui qui tenait il y a quelques mois.
Complètement à l'opposé en disant, finalement, c'est un jeune homme qui travaillait chez Tout Mieux, qui avait travaillé également chez Maxim's, rue Royale à Paris, et qui a décidé de quitter son emploi parce qu'il ne voulait plus servir d'alcool aux mécréants. Signe de radicalisation, évident.
Et manipuler de porc non plus.
Absolument, plus toucher cette viande-là. Et ensuite, quand il passe devant la justice, il pleure, il parle de ses frères qui sont morts en Syrie. Il y a une indulgence naturelle qui se crée. Et en revanche, effectivement, celui-là, aujourd'hui, souligne que le djihadisme, ce n'est pas que les attentats. Il dit qu'il y aura d'autres frères qui passeront à l'action, et lui, il veut la guerre totale. Et effectivement, son discours, il vient briser de façon terrifiante, toutes les tentatives qu'on peut avoir de déradicalisation.
Vous écrivez « Le terrorisme est une matière qui rend fou ». Vous êtes devenu fou ?
Je pense que c'est une matière qui rend fou beaucoup de monde. Marc Trévidic parlait du virus du terrorisme. Les juges que j'ai rencontrés dans ce livre, certains quittent leur poste actuellement pour en faire d'autres et avouent leur soulagement. Et moi, j'ai eu une forme de trouble parce que j'ai des idéaux de justice assez chevillés au corps. Et effectivement, le fait de se retrouver dans cette chambre, tout est bousculé. Et parfois, j'ai fait l'évolution du livre sur cette façon-là. C'est-à-dire que j'ai commencé par les flots de haine qui m'ont envahi, notamment quand je voyais des jeunes gens arriver qui ressemblaient trait pour trait à aux kamikazes du Bataclan. Et c'est très troublant d'avoir cette correspondance
De plus savoir qui on est. Et d'avoir des sentiments qui correspondent pas à ceux qu'on voudrait avoir.
Voilà, et d'avoir des flots de haine. Et par ailleurs, quand on a comme modèle Joseph Kessel, par exemple, qui pour le procès de Nuremberg avait écrit les jugements derniers, c'est une place dans l'histoire que nous, journalistes, on n'arrive pas à avoir, parce qu'on n'est pas dans des jugements derniers. L'histoire du terrorisme, elle est en cours, on est face à cette machine à laver, en quelque sorte, qui nous broie, qui nous trouble. Et c'est vrai que la tentation, à un moment, c'est de se dire que ce sont des gens sans intérêt, que ce sont des coupables forcément coupables, et de ne pas faire œuvre de justice et de ne pas raconter la justice. La folie, en tout cas, était de se rendre compte que ce que j'écrivais il y a 10 ans ou ce que je racontais il y a 10 ans sur le terrorisme était évidemment démenti par un certain nombre de faits, et c'est assez douloureux pour un journaliste.
Merci Mathieu Delahousse. Merci. Je précise que votre livre, donc La Chambre des coupables, est édité chez Fayard.